Et là-dessus, on s'en va joindre Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Michel, votre été s'est bien passé?
Ça se passe bien. On espère qu'il n'est pas trop terminé encore, qu'il nous reste des belles journées.
C'est vrai, je ne devrais pas en parler au passé parce que ça continue jusqu'au 23 septembre officiellement, selon le calendrier.
Officiellement et espérons plus longtemps.
Oui. Michel, vous avez été intéressé par un texte, une chronique en fait de Francis Veil qui est paru hier dans la Presse Plus faisant état d'une récente étude de Statistique Canada.
Oui, c'est une étude que j'ai trouvée intéressante sur le taux de pauvreté des immigrants au pays selon les origines ethniques. C'est intéressant de cette étude-là parce que le gouvernement fédéral envisage d'augmenter l'immigration assez significativement au Canada dans les prochaines années. Donc, ce qui arrive à nos immigrants, une fois qu'ils sont installés, je pense que c'est important de le savoir.
Et pourquoi, Michel, le gouvernement veut-il augmenter le nombre d'immigrants, même si on s'en doute?
Oui, on s'en doute. Bien, un, à court terme, les taux de chômage sont très faibles. Au Canada, c'est 5,4%. Au Québec, c'est encore plus faible, à 4%. On parle quand même depuis un bout de temps de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il est évident que l'immigration, c'est une façon de combler nos besoins. Mais à plus long terme, le Canada, là, à l'instar de plusieurs pays industrialisés, comme la France, certains pays asiatiques, même la Chine, ont un très faible taux de natalité. Au Canada, on est à 1,4 enfants par femme, alors qu'au Québec, on est un peu plus élevé à 1,5, mais on est sous le taux de maintien de la population qui est légèrement supérieur à 2. Donc, sans immigration, notre population va vieillir, puis va s'appauvrir tranquillement. On va avoir de moins en moins de travailleurs là, pour contribuer au financement des services publics et même dans le privé à innover, à développer des nouvelles idées, des nouvelles technologies, des nouveaux produits, etc. Donc, c'est important d'augmenter le nombre de personnes en âge de travailler, puis bien, l'immigration, c'est une des solutions.
Alors, qu'est-ce qui arrive avec les immigrants d'ici?
Alors, dans l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le taux de pauvreté des immigrants. Il y a plusieurs études qui, dans le passé, ont regardé les perspectives économiques. On regarde le taux d'emploi, est-ce que nos immigrants se trouvent des emplois ou pas, quel est leur salaire. Puis souvent, on les suit pendant plusieurs années, donc après 15 ans. Puis même, on est même intéressé aux immigrants de deuxième ou troisième génération. Donc, quand on fait ça, on regarde ce qui arrive à l'immigrant, en guillemets, moyen. Là, l'immigrant moyen, c'est quoi ses perspectives d'emploi, c'est quoi son taux de salaire. Mais tous les immigrants ne sont pas à la moyenne, si vous voulez. Il y en a qui sont plus chanceux, puis d'autres moins chanceux. Alors, cette étude-là regarde les plus démunis d'entre eux, donc ceux qui sont sous le seuil de pauvreté.
Et concernant le taux de pauvreté des immigrants, à quel niveau il est?
Alors, pour les immigrants, un des objectifs de l'étude, c'était de regarder comment le taux de pauvreté varie en fonction de la race. Alors, ce qu'on appelle des immigrants racisés ou de minorités visibles. Alors, les minorités visibles, selon, bon, il y en a plusieurs, là, selon le recensement de 2021, pardon. Ceux qu'on regarde notamment ici, là, dans l'étude, on en regarde 11. Je vous les nommerai pas tous les 11, mais pour fixer les idées, les personnes de race arabe, les latino-américains, les personnes asiatiques ou de race noire. Donc, pour ces groupes-là, leur taux de pauvreté est plus élevé que celui des immigrants blancs. Donc, on compare pas aux résidents blancs du Canada, là, mais aux immigrants blancs. Donc, on est capable de connaître la race des immigrants qui rentrent, puis là, on compare. Alors, pour vous donner un chiffre, pour les immigrants de première génération, le taux de pauvreté des immigrants blancs était de 7%, alors que pour les latino-américains, on était à 9,4, pour les japonais également, pour les noirs, 10,9, les arabes, 15,4, et puis les chinois, 14,1. Donc, on se rend compte qu'il y a un écart significatif entre le taux de pauvreté des blancs à 7%, puis oui, ceux de différentes autres races, et puis même à l'intérieur des personnes racisées, ça varie beaucoup selon la race.
Et comment on explique ces écarts?
Bon, il faut être prudent, là. Peut-être notre premier réflexe, c'est de dire qu'il y a de la discrimination. C'est possible qu'il y en ait, mais il faut faire attention. Quand on compare des groupes comme ça, les groupes ne sont pas homogènes. Ils peuvent différer selon leur âge, selon leur diplôme ou leur scolarité, ou même leur connaissance de la langue locale, français ou anglais, dépendamment de la province. Alors, les auteurs ont été très prudents, puis ont essayé d'ajuster pour ces facteurs-là, puis pour essayer d'avoir comparé des pommes avec des pommes. Donc, ils ont dit, ben supposons que les latino-américains avaient les mêmes caractéristiques de scolarité, d'âge, connaissance de la langue que les immigrants blancs, quel serait leur taux de pauvreté? Alors, par exemple, pour les latino-américains, ils restent à peu près au même niveau, là. En fait, ils augmentent un petit peu. Pour les Japonais, ils baissent de 9,4 à 7,6. Pour les Noirs, ça baisse d'à peu près 1%, de 10,9 à 9,6. Pour les Arabes, ça baisse de 3%. Puis pour les Chinois aussi, à peu près de 3%. Donc, quand on ajuste pour ces facteurs-là, qui sont des facteurs autres que la race, l'écart se rétrécit, mais il subsiste quand même. Ce qui est intéressant, c'est que les écarts diminuent encore plus si on considère les deuxièmes ou troisièmes générations. Donc, ils ont suivi les gens pendant longtemps. Donc, on a des données sur, par exemple, les enfants des immigrants arabes, puis même les enfants de leurs enfants, donc la troisième génération. Et puis là, l'écart est vraiment beaucoup plus faible. Les Blancs, le taux de pauvreté est à 6%. Pour les Latino-Américains, à 8%. Les Japonais, 5,2%, donc sous le taux de pauvreté des Blancs. Pour les Noirs, 7,6%, légèrement supérieur. Les Arabes, à peu près la même chose. Puis les Chinois, sous le taux de pauvreté des Blancs, à 5,1%. Donc, quand les immigrants ont des enfants, puis on se rend compte que ces écarts-là s'estompent. Ils sont encore là, mais beaucoup plus faibles.
Et Michel, est-ce qu'on peut associer ces chiffres à une forme de discrimination?
Bien, c'est ça un peu ce que les auteurs concluent, là, une fois qu'on a contrôlé pour les facteurs observables autres que la race. Les auteurs concluent qu'il semble avoir un lien entre le statut de personne racisée puis l'inégalité économique. Il s'estompe avec le temps, donc avec les générations, mais il semble subsister un petit peu.
Et quelle est la situation pour les immigrants d'ici du Québec?
Bon, on n'a pas de chiffres comme tels sur les immigrants du Québec. Là, c'était une étude canadienne de Statistique Canada. Par contre, les chiffres qu'on a, ce sont sur la proportion des immigrants de telle ou telle race qui viennent au Québec par rapport au reste du Canada. Donc, pour vous donner une idée, au Québec, on a 40% des immigrants arabes du Canada. 30% des latino-américains, 27% des blancs, 26% des noirs. Donc, puis ça, c'est en haut de notre poids démographique. Donc, le poids démographique du Québec doit être entre 20 et 22 ou 23%. Donc, eux, ces types d'immigrants-là, ces races d'immigrants-là sont plus présents au Québec relativement qu'ailleurs. Par contre, pour les Asiatiques, c'est beaucoup plus faible. Le Japonais, 5%, les Chinois, 6%. Ce qu'on remarque, c'est probablement que la langue explique. Là, les Japonais sont beaucoup moins probable qu'un Japonais puisse parler le français. Puis on essaye d'attirer plus d'immigrants francophones au Québec, alors que pour les Arabes, les pays du Maghreb, le français est une des principales langues. Donc on attire beaucoup d'immigrants arabes. Certains pays latino-américains, l'espagnol est peut-être un peu plus près, puis certains s'adaptent plus facilement au français. Pour les Blancs, il y a certainement une grande partie qui vient de la France, puis les Noirs, bien, il y a Haïti, puis l'Afrique francophone également, là, qui nous fournit en immigrants. Quand on regarde ça, ben les Arabes, on a vu que c'est parmi un des groupes racisés les plus défavorisés, ben ils sont en grande partie au Québec. Les Asiatiques sont moins présents, puis c'est peut-être eux qui s'adaptent le mieux, là, si vous voulez, à l'échelle canadienne.
Très intéressant. Ça nous fait réfléchir. Vous avez bien fait de vous inspirer. En fait, c'est un résumé de la chronique de Francis Veil qui a été publiée dans la presse d'hier intitulée « Plus pauvres, virgule, les immigrants racisés ». Merci beaucoup, Michel. Je vous souhaite une belle semaine. On va se retrouver la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
À bientôt.